Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre, jour du souvenir. Et encore une belle journée. J'arrivais tranquillement au poste. Je suis venu en autobus métro aujourd'hui. Il fait beau encore. Sur la joue, là, le fond de l'air est un petit peu frais, mais pas froid encore.
Mais ça s'en vient.
Merci, Francine, de me sauver. Francine Forget est avec moi.
Ah, bonjour, Yvan.
On va se taquiner et s'ostiner pendant
une heure 30. Disons que ça a commencé avant que l'émission en débute.
Ah oui, on commence
tôt, notre Mathieu, là, à la régie, Mathieu Tessier, qu'on salue, là, qui nous en a poussé une coupe, puis on était morts de rire. Mais bravo, Yvan, vous avez été capable de... On reconnaît votre professionnalisme.
N'est-ce pas? Hein? Et bonjour, Mathieu.
Bon, oui, bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous avez dormi au poste? Parce que quand je suis arrivé ce matin, vous étiez déjà...
J'ai eu une très courte nuit, mais non, je n'ai pas dormi ici.
D'accord. Mais vous êtes venu vélo?
Oui, vélo. Ben, oui.
Vélo, hein?
J'ai failli venir en scooter parce que ma saison se termine bientôt. Ça se termine le 1er décembre.
Ah oui, il y a une date légale
ouais,
pour ça.
Ouais. Mais non, en vélo. Comme vous avez dit, sur la joue, même barbu, c'était très doux.
Oui, hein? Ben, moi, je suis un simili-barbu, là. Pas comme vous, là, mais quand même. Non, c'est vraiment agréable.
Alors, il faut en profiter, par exemple, Yvan, parce que vous savez que ce week-end, d'ailleurs, ça va commencer aujourd'hui.
Oui, hein?
La température sera moche, il faut se dire ça, mais... Avec nos bonnes suggestions de fin d'émission,
oui.
On va la rendre peu importante.
Il y a une fin de semaine sur le divan qui se prépare. Aïe, 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 on vous en parle à la fin de l'émission. Oui, on a des relents de Nicole qu'on va subir en fin de semaine. C'est épouvantable d'appeler un ouragan Nicole. Mm. Non, mais j'aime ça, les noms plus exotiques, tu sais, Fiona. Mais des Nicole, on connaît tous des Nicole, puis on les regarde, c'est de ta faute. Mais là, je sens, Mathieu a approché son micro. Non, il laisse tomber. OK, allons-y.
Je pense que je vais enchaîner avec
oui,
les faits saillants.
Oui, c'est ça mon prochain point.
Ça a bien commencé, Yvan, là, mais vous avez besoin d'une petite pause.
Oui, ça se détériore un peu. Donc, allez-y, Francine, qu'est-ce qui a retenu votre attention?
Alors, vous avez parlé des Nicole. Moi, je vous dirais que ce sont les femmes, cette semaine, qui ont retenu notre attention.
Cette semaine?
Mon attention. Des femmes, je vous dirais.
Je pensais que c'était toutes les semaines que vous...
Oui, mais particulièrement cette semaine. Mm-hmm. J'aimerais souligner la dignité dans l'annonce de son départ de la chefferie du Parti libéral de Dominique Anglade. Elle a fait ça avec grande classe. Sans aplavantrisme, c'est-à-dire qu'elle a réitéré ce pourquoi elle s'est engagée avec le parti et en tant que chef, ses enjeux, ses défis et quels défis attendait le parti à reconstruire. C'est un message extrêmement fort et vous savez comment j'aime les médias sociaux. À la suite de cette annonce, c'était assez incroyable. Je me suis dit, tellement on avait aimé ce discours de départ, je me suis dit, si j'étais un libéral, je me dirais, est-ce qu'on a bien fait finalement? Parce qu'il y avait beaucoup d'éloges, non pas évidemment de gens du parti, mais de monsieur et madame tout le monde, comme on dit.
Oui, et je pense qu'un des défis du Parti libéral, ça va être de s'approcher de monsieur et madame tout le monde.
Voilà. La deuxième, Pauline Marois, ça a été assez discret cette semaine, mais qui a quand même reçu
son prix,
à Paris le prix international de la laïcité, qui lui a été remis par l'ex-président de la République, François Hollande. Évidemment, c'est pour ses travaux principalement sur la déconfessionnalisation des écoles publiques qui s'est faite en 2020 et aussi la charte de la laïcité qui a été déposée en 2013, mais qui n'a jamais été adoptée, mais quand même, là, c'était sur la table. Alors, bravo à Mme Marois qui, elle aussi, a eu une grande carrière politique et qui a fini un peu comme Dominique Anglade après sa défaite.
Oui, bien, je remarque que des dames quitte la vie politique. Je ne me souviens pas du nom de la première ministre en Angleterre, là, mais c'est un peu le même.
Oh, elle, ça a été un coup de vent, là.
Oui.
Un coup de vent.
Mais je veux dire, les dames quittent leur siège de façon très digne. Mm. Et je pense aussi à Boris Johnson et à Donald Trump qui, eux...
Qui font autrement.
Oui, qui font autrement, puis qui ont une main puis un doigt qui reste accroché après leur siège, puis qui ne veulent pas vraiment le lâcher, puis qui reviennent tout le temps, puis tout ça. C'est comme, c'est deux choses, vraiment deux choses.
Aujourd'hui aussi, je vous parle de Monique Mercure et son timbre. Alors, Monique Mercure, hein, cette grande comédienne décédée en 2000, qui a été la première Québécoise à remporter un prix d'interprétation à Cannes en 1977 pour son interprétation dans Gia Photographe, a maintenant son timbre. Je vous parle aussi de la COP 27, alors je brièvement, parce que il y a tout un groupe de femmes, de jeunes femmes, qui remplace d'une certaine façon Greta Thunberg, qui a annoncé qu'elle ne participerait pas à cette COP-là, mais il y a plusieurs jeunes femmes qui vont y être, qui y sont, je devrais dire. Ramina Paulette, elle a 16 ans. On dit que c'est la Greta africaine. Elle est là. Dominika Lazota, elle a 20 ans. C'est une militante, elle, en faveur de la grève scolaire, comme avait proposé Greta à l'époque. Camille Etienne, c'est une militante française qui a participé à plusieurs vidéos dénonçant l'inaction du gouvernement face à l'urgence climatique. Et il y a aussi un garçon, je vais quand même souligner sa participation, parce que Francisco Vera, qui n'en est pas sa première COP, il était à la COP 26, il a 13 ans, ce jeune Colombien.
Il n'est pas sa première COP, il y a 13 ans.
Il y a 13 ans, il a fait la COP 26, en effet. Et je vais terminer avec le jour du souvenir. Je sais que vous allez en parler, mais aujourd'hui dans la presse plus, il y a un écran qui s'intitule « Les vétérans, c'est elles aussi ». Et on parle de deux dames qui, finalement, on peut associer à cet événement, qui ont été bardées de médailles aussi, d'après ce que je comprends, mais peut-être un peu moins, mais quand même, des femmes qui devraient honorer. En cette journée du souvenir, il s'agit de Madame Noreen Griffith et Anna Marie Kerwin qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Grande Guerre, et qui se sont rencontrées pour une première fois dans le cadre de cet article.
Oui, parce que les deux résident à l'hôpital des vétérans à Sainte-Anne-de-Bellevue.
Oui, alors voilà les femmes.
Puis c'est à cause du journaliste qu'ils se sont rencontrés, ils ne se connaissaient pas vraiment. Et les deux ont travaillé de façon très active. Hein? Ils étaient dans les forces aériennes.
Maintenant. À la force aérienne, oui, c'est ça.
Ils n'étaient pas dans une usine à faire des balles.
Oh non, des... c'est des combattantes.
Exactement.
Combattantes, oui.
Alors, moi, je... Pardon. Excusez-moi. Je reviens sur la COP 27. J'ai besoin d'une gorgée.
Vous m'avez fait faire un saut, mon chéri.
Oui, la COP 27, et puis après ça, on aura la COP 15 à Montréal. On en parlera après.
Oui,
alors,
non, mais...
La COP 27, on est...
Ce qui a retenu mon attention cette semaine, c'est plus le fait que depuis plusieurs COP, on nous dit c'est grave, il faut faire quelque chose, il faut limiter la croissance de la température à 1,5 degré. La COP 27, là, si on se fie aux discours qui sont faits, on est tout près du mur. Puis comme disait M. Gutiérrez, là, le président, le directeur de l'ONU, on a le pied
secrétaire général.
Le secrétaire général, merci. On a le pied sur l'accélérateur. Puis dans la population, moi, je sens pas ça. Puis dans nos gouvernements non plus, je sens pas ça. Et j'ai peur de cette dichotomie-là.
Mais on crie au loup. Alors... Quand on crie au loup, à un moment donné, c'est plus difficile d'aller chercher l'adhésion.
Oui, sauf que ça se peut que le loup soit vraiment là. Et l'autre chose qui a retenu mon attention, évidemment, c'est les élections de mi-mandat aux États-Unis qui ne sont pas encore terminées et qui ne seront pas... Le décompte ne sera pas terminé avant encore quelques jours. Puis comme moi, j'ai beaucoup travaillé dans des élections dernièrement, je me disais, mon Dieu, comment ça se fait? Et le vote par correspondance est énorme aux États-Unis. C'est ça qui prend beaucoup de temps. Alors... à suivre, mais les résultats sont fascinants, vraiment fascinants. Qu'est-ce qu'on regarde dans notre émission d'aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, évidemment, vous allez vous entretenir, comme à l'habitude, avec une représentante d'un organisme. Il s'agit de Vanessa Paré, de Moi Lépinière et Mobilité Québec. On a nos chroniqueurs qui nous ont tenus en suspense toute la semaine.
Toute la semaine, oui.
Puisque Serge Hamelin fait le volet 2 des services funèbres et Marcel Dugas, lui, de Hippolyte. Mais cette fois, ce ne sera pas le pont, ce sera vraiment,
vraiment Hippolyte.
L'homme. Oui, Hippolyte Lafontaine. De mon côté, je vais vous parler de ce qui se passe chez IGA. Et dans d'autres marchés, Sobeys, entre autres, les problèmes informatiques et leurs conséquences. Et on va profiter de cette fenêtre pour parler un peu moins de technologie et parler des îles de la Madeleine, puisque je sais que vous êtes un fervent des îles.
Un peu.
Et qu'on pense à instaurer une taxe touristique aux îles de la Madeleine.
Oui, on va parler de ça tantôt. Alors, une grosse émission, on va avoir beaucoup de plaisir. Et on commence avec cette chanson.
Nous sommes allongés sur l'herbe de l'été. Il est tard, on entend chanter des amoureux et des oiseaux. On entend chuchoter le vent dans la campagne. On entend chanter la montagne.
J'ai ta main dans ma main, je joue avec tes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux, et partout l'on ne voit que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux qui fleurit tour à tour, tendre et mystérieux.
Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur, et dis-moi qu'il n'est pas de plus charmant bonheur que ces yeux dans le ciel, que ce ciel dans tes yeux, que ta main qui joue avec ma main. Je ne sais rien de toi,
tu ne sais rien de moi.
Nous ne sommes que deux vagabonds, toi, fille des bois,
et vous, mauvais garçon.
Ta robe est déchirée,
je n'ai plus de maison,
je n'ai plus que la belle saison, et ta main dans ma main qui joue avec mes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux, et partout l'on ne voit que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux qui fleurit tour à tour tendre
et mystérieux.
Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur, et dis-moi qu'il n'est pas de plus charmant bonheur que ces yeux dans le ciel, que ce ciel dans tes yeux, que ta main qui joue avec ma main, que ta main qui joue avec ma main.
Alors, évidemment, on a reconnu Michel Louvain, la voix masculine, la voix féminine, il y a quelqu'un?
Si c'était pas moi qui l'avais fait jouer, je ne pense pas que je l'aurais reconnu.
Ariane Moffat.
Oui.
Et c'est composé par un petit jeune qui avait beaucoup d'avenir à l'époque, Charles Trenet.
Ah! Les Unes, Le Devoir. Le Devoir qui parle du sport-études qu'on a dans nos écoles secondaires principalement, mais pas pour tous. C'est un coût très élevé, ces programmes. En moyenne, 5 230 $ par année. Alors évidemment, ce ne sont pas tous les jeunes qui peuvent en bénéficier. Anne-Marie Provost nous rapporte en fait les conclusions d'une étude qui a été faite par des professeurs de l'Université Laval, Alexandro Allison Abonza et Andrea Woodburn. Ils sont chercheurs à la Faculté des sciences de l'éducation. Alors, les programmes, en moyenne, c'est 5 230 $ mais ça peut aller jusqu'à 16 000 $ En fait, si vous êtes au biathlon, ça va coûter 775 $ par année, mais si vous êtes dans le programme voile, on est à 16 333.
Oh!
Alors, ces données-là viennent de gestionnaires, de 80 % des 580 programmes officiels de sport-études, des écoles publiques et privées. Toujours au devoir, la société d'État qui prévoit une multiplication des infrastructures. Alors ici, on parle de Hydro-Québec. D'ici 10 ans, on dit qu'il y a plusieurs infrastructures, je m'excuse, qui vont exercer une pression considérable sur le réseau électrique. Alexis Riopel et Ulysse Bergeron parlent évidemment non pas des crypto-monnaies, parce que Hydro-Québec n'en veut plus, mais Hydro-Québec veut quand même poursuivre sa percée auprès des centres de données qui, eux aussi, font rouler des ordinateurs à fond de train. Alors, il y a un plan qui a été déposé la semaine dernière et la Société d'État prévoit quintupler ses ventes d'électricité à cette industrie d'ici 2032. Alors, il faut savoir que l'électricité circule de plus en plus abondamment dans des serveurs de multinationales de l'informatique. Alors, on parle toujours des mêmes, là. Évidemment, Microsoft, Amazon et Google qui cherchent à décarboner leurs activités. Alors, ils veulent se donner bonne conscience. La rive nord, là où l'automobile règne en maître, c'est un papier de Zachary Goudreau dans Le Devoir. Alors, il y a plusieurs citoyens qui aimeraient se déplacer en transport collectif, mais qui se tournent tout de même vers la voiture parce que les tarifs sont élevés et un manque de services. Mais quand on lit l'article, on pourrait probablement conclure, et le mot est de moi, que c'est un service qu'on qualifierait de déficient.
Oui, puis vous avez même vérifié auprès de quelqu'un qui travaille ici.
Exactement, ça c'est une enquête très sérieuse, surtout que c'est notre chef de service.
Oui,
alors évidemment, on n'osera pas le contredire. Alors vous imaginez que, voilà, c'est ça, c'est très sérieux comme enquête.
Il parle de Repentigny, puis il nous a parlé de son cauchemar quotidien.
Son cauchemar quotidien, vous avez entièrement raison. Dans le journal de Montréal, alors, c'est, je vous dirais sourions un peu, mais ce n'est pas drôle parce que j'aimerais pas être la voisine de cette dame dont on parle en une. Cette dame qui élève 123 chiens chez elle.
Oui, oui.
Charles Mathieu et Richard Olivier ont fait une enquête. En fait, ils travaillent au bureau d'enquête du journal de Montréal. C'est une femme de Lanaudière qui accueille 123 chiens chez elle, mais on soupçonne que cet hiver, elle en a recueilli 150 chiens. Et il y a un règlement maintenant
ça
qui limite...
Ça fait beaucoup de bouffe,
hein? Ça fait beaucoup de bouffe, mais beaucoup de poils aussi, là. Alors, il y a un règlement qui limite le nombre d'animaux à 50, mais Québec a décidé d'octroyer un droit acquis à tous ceux qui avaient plus de 50 bêtes avant le 25 août. Vous savez, les fameuses clauses grand-père, là, dont on parle souvent dans les milieux syndicaux, entre
oui,
guillemets.
Oui.
Et voilà. Alors, si ça vous intéresse, parce que quand même, c'est un problème, je dirais, qui est dérangeant pour les voisins, mais aussi c'est un problème écologique. L'émission JE diffusée ce soir sur TVA à 21h30 va en parler.
Oh! D'accord.
Dans le Journal de Montréal aussi, on parle encore une fois de technologie. Alors, la police est en renfort sur TikTok. Des influenceurs d'ici qui font des tirages illégaux sur les réseaux sociaux, qui prétendent avoir des permis de la régie, mais qui n'en ont pas. Alors, la régie des loteries et courses régit justement les tirages, mais ce n'est pas vrai. Alors, c'est des influenceurs québécois qui empochent des milliers de dollars. C'est pas frauduleux dans le sens que c'est un 50-50. Hein? On lance un appel.
Un moitié-moitié,
OK. Alors, half and half, c'est pour ça que je l'ai traduit par 50-50, là. Mais bon, le moitié-moitié, on vous demande une somme, puis on fait tirer la moitié de cette somme. Et l'autre, on la garde pour, finalement, nos frais reliés à l'organisation de cet événement. Alors, je les donne parce que les deux noms, Ariane Chouinard, Chloé Lafontaine, qui organise plusieurs fois par semaine ses jeux d'argent en direct sur le réseau social TikTok.
Ah oui.
Et je termine brièvement avec la presse parce que c'est important, mais on va y revenir ensemble. Une taxe touristique aux îles, comme je l'ai mentionné, oui. IGA et cinéma et télévision. Alors, Cédric Clapic, qui n'est pas sorti de l'auberge, c'est le président, coprésident de Cinémania, qui continue d'ailleurs jusqu'au 13 novembre avec Pascal Bussière, mm-hmm. sur lequel on fait un article intéressant.
Et pour ceux qui l'auraient oublié, c'est le réalisateur de l'auberge espagnole.
Oui, c'est ça. Oui, oui.
On se tourne maintenant vers notre chroniqueuse en résidence chez elle dans l'Estrie, Monique Kerouac. Bonjour Monique.
Bonjour Yvan, bonjour Francine.
Bonjour.
Donc vous n'êtes pas dans votre voiture cette semaine?
Non, je ne suis pas dans ma voiture. Pfiouf, je suis tellement heureuse. Alors j'admire la forêt devant moi. C'est beaucoup plus, paisible.
Oui, pas encore de neige, je pense. Hein?
Pardon?
Pas encore de neige, hein?
Ah non, non, absolument pas. C'est très, très doux, là, comme mm-hmm. vous le mentionniez en début d'émission. C'est la même chose en Estrie.
Bravo.
Alors, je vous raconte une autre reconnaissance estrienne. La semaine dernière, on a parlé des prix décernés des Caesus pour les fromages extraordinaires de l'Estrie. Alors, ben, cette semaine, c'est le travail de trois papas pour dynamiser le marché champêtre de Melbourne, qui a été reconnu dans toute la province dans le cadre de la remise des prix des fleurons du Québec. Alors, cette aire de jeu du marché champêtre de Melbourne s'est classée finaliste pour le prix reconnaissance en mobilisation citoyenne, catégorie 5000 habitants et moins. Alors, ces trois papas, ils ont construit un espace qui permet aux familles de se détendre, de socialiser. Il y a un parcours d'équilibre fait de matériaux naturels et recyclés, ainsi qu'un tableau sensoriel et un mini-marché. Alors tout ça, ça a été inauguré en septembre 2021 et depuis sa mise en place, bien, il y a des centaines d'enfants qui ont défilé pour s'amuser. Mmh. Maintenant, sur le plan du développement économique, alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, ça a l'air bien. Le groupe Montoni compte investir plus de 300 millions de dollars dans le parc scientifique Bromont, nous a appris la Voix de l'Est. Alors, cet important promoteur immobilier de Laval va ériger à terme 16 bâtiments à vocation industrielle qui répondront à la norme LEED et qui s'intégreront à la nature selon les critères de la biophilie. Alors, la vision d'ensemble proposée pour le parc scientifique, rappelons-le, est d'implanter des projets s'inspirant de la biophilie. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est. Ben, c'est la science qui étudie le lien inné entre l'humain et la nature et les bénéfices tirés de cette connexion qui apporte un sentiment de bien-être. Donc, en termes d'aménagement, l'approche privilégie de limiter le déboisement au maximum et de proposer des aménagements hautement intégrés à la nature. Lorsque cet espace sera terminé, ben, ça pourra inclure une agora pour des présentations, du jardinage, des espaces de travail, mais aussi une tour d'observation permettant de se reconnecter avec le paysage de la région, dont le mont Shefford et le mont Brome. Mm-hmm. Mais tout n'est pas rose à Bromont. Alors, la pérennité de la nature de Bromont est compromise en raison de la croissance rapide de la municipalité. C'est la mise en garde qu'ont faite près de 1200 signataires d'une pétition qui a été déposée lors de la séance du Conseil mardi. Monsieur Serre, initiateur du mouvement contestataire, a fait valoir que la municipalité n'est pas du tout aligné avec sa cible d'avoir 20% de son territoire protégé d'ici 2030. Il y aurait un déséquilibre entre l'essor immobilier et l'objectif lié au plan de développement durable adopté en 2012. Alors, il y a un coup de barre qui est nécessaire si on veut protéger ne pas perdre, en fait, plus des forêts saines, des paysages magnifiques et des milieux écologiques. La croissance de Bromont repose sur un important capital nature.
Ben oui.
Maintenant, sur le plan humain, eh bien, Sébastien Jacques, vous en avez entendu parler, eh bien, il a quitté le Québec en direction de l'Italie jeudi pour y réaliser son périple de traverser le pays du sud au nord en 50 jours. Et ce périple le poussera à parcourir l'équivalent de 47 marathons. Mais ce jeune homme, c'est un Magogois. Il était tout à fait fébrile à l'approche de cette aventure, lors de laquelle il va ramasser de l'argent. Il vise 100 000 $, et ce, pour la fondation du CHU Sainte-Justine. Alors, si vous voulez encourager donner, en fait, ben, vous n'avez qu'à écrire Sébastien Jacques, d'un seul mot, sans accent, .ca, pour faire vos dons. On se rappelle qu'il a subi une opération délicate au cerveau et qu'il n'y avait pas de médecin au Québec pour qui voulait l'opérer. Il est allé en Californie pour le faire. Alors, ce qui est amusant, c'est que Sébastien Jacques a sollicité des personnes en Italie pour le loger, pour ne pas qu'il ait à transporter une tente comme il l'avait fait lors de son premier exploit en 2017. Et il a reçu une centaine d'offres de familles qui souhaitent l'accueillir à bras ouverts durant son parcours.
Okay.
Il en a sélectionné 50 chez qui il va dormir au cours de son parcours et il a même reçu des propositions de menus.
Bravo.
Voilà.
On se laisse là-dessus et on va suivre le périple de ce coureur magogois. Alors,
oui,
à bientôt.
Tout à fait. Alors, bonne fin d'émission.
Merci, au revoir. Du côté de Québec, du côté du soleil, deux articles à considérer particulièrement. Premièrement, les vaccins anti-COVID sont-ils responsables de la surmortalité? Alors, Jean-François Clich nous a pondu un article assez détaillé sur le sujet et pour nous dire que non, les vaccins ne sont pas impliqués là-dedans. Mais oui, il y a surmortalité, autant au Québec que partout dans le monde. Ensuite, on parle aussi des syndics. On pense à une récession à venir. Les syndics se préparent à voir une vague déferler dans leurs bureaux d'ici quelques mois de personnes qui vont avoir de la misère à payer leur hypothèque ou leur prêt. Du côté d'Ottawa, deux nouvelles que je retiens. D'abord, il y a plusieurs membres des Nations algonquines et le maire sortant d'Ottawa, Jim Watson, qui était présent hier pour l'inauguration d'un nouveau pont, une nouvelle traversée de la rivière des Outaouais, qui portera le nom de William Commanda, qui est un leader spirituel algonquin. C'est un ancien pont ferroviaire qui a été transformé pour devenir piétonnier et cycliste. Et la dernière nouvelle, c'est le jour du souvenir. Patrick Duquette nous raconte la guerre à travers les yeux de Arthur Hayes et de ses descendants. C'est le poignant récit du soldat d'infanterie qui nous transporte directement sur les champs de bataille. Alors, ce sont les unes à travers les régions. Dans quelques instants, on vous revient, on prend une mini-pause, puis on vous revient avec Serge Hamelin qui fait la phase 2 de sa chronique sur les frais funéraires. Alors, à tantôt!
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Belle la malune, où est la froid, où est la chaud, la belle la malune. triste, la triste, j'aurais voulu tant voulu être une artiste, savoir m'exprimer mieux, être maman dans un champ de presse et courir comme les autres. Mais la paresse l'emporte sur ma sagesse, je ne dérange personne. Mais l'on dit que je déconne un peu trop ma vie. La liberté de l'un dérange les pas sérieux des autres. La liberté dérange, mais je n'assume pas cette faute. Sur ma calèche de voyageuse mal achevée, je décore de flammèche mes histoires entartées. Convertie aux fantasmes et aux hallucinations, la musique chapeaute ma carapace de fer. Peu importe si je brûle en enfer, mes croyances sont aussi fortes que les mots que l'on enterre. Sous la peau des pseudo-musiciens qui jouent de notes et ainsi font, 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 font la cadence canotier avant matelot. On abandonne la qualité pour faire des sous avec des sons, des sous avec des sons. Des solistes qui ne tiennent pas la route sans trop manger leur croûte. Ils en viennent à se jouer de vous, se jouer de nous et par-dessus tout clouer leurs atouts au plancher à force de ne plus avancer. À force de ne plus avancer. À force de ne plus avancer, mais avancer plus rapidement que la mal lunée. Où est les mal lunées? Où est les mal lunées? Oh, oh,
Elle s'appelle Sarah Toussaint Léveillé et la chanson s'appelait La Mâle Lunée.
La Mâle Lunée.
Eh oui.
Oh boy. Je me tourne vers Serge Hamelin pour la dernière fois avant quelque temps.
Oui, avant le mois d'avril prochain.
Oui, parce que vous en allez dans des endroits où climat...
la vie m'appelle ailleurs.
Vous allez vous ennuyer de l'hiver.
Ah, terrible.
Je suis certaine.
Vous avez l'air de quelqu'un qui est triste.
Ah, il est triste, il est triste. Gars, il y a l'alarme ici. Là.
Oui, oui. Vous partez à reculons. On le sent.
Mon manche de pelle est brisé, alors je ne peux plus rester ici.
Okay. Donc, on va profiter de vous pour aujourd'hui. Et c'est la suite de votre chronique de la semaine dernière.
Oui.
Et là, on va parler d'exécuteur ou exécutrice testamentaire.
Eh bien, voilà.
Alors, est-ce que je peux poser une question d'emblée?
Absolument.
Je suis curieuse. Puis
absolument.
Vous savez, à chaque fois, je vous interpelle, Serge, puis comme vous en allez longtemps,
bon.
Je vais m'ennuyer.
Allez,
moi,
allez.
Je suis bien mêlée entre exécuteur et liquidateur.
Oui, bien, il n'y a pas de mélange à y avoir. Le liquidateur, autrefois appelé exécuteur testamentaire. Autrefois appelé exécuteur testamentaire.
Ah, voilà!
Oh. Donc, c'est moi qui ai dans l'erreur.
On vient de changer de terme, c'est tout. Comme ça, on a...
synonyme.
On a rajeuni.
Il y a quelqu'un qui a changé la loi, puis il a changé le nom.
Ben, je sais pas. En tout cas, c'est Florence Dujoux qui a écrit cet article, toujours dans la merveilleuse revue Protégez-vous. Alors voilà, on va parler de l'exécuteur testamentaire. Et si vous aimez mieux, pour être plus à la mode, le liquidateur. Et dites-moi, avant de commencer... est-ce que c'est mieux d'avoir un testament quand on meurt?
Ben, moi, je croirais que oui.
Oui. Et combien ça coûte,
moi
à
aussi.
Peu près, d'après vous, un testament en bonne et due forme? Ça
non,
peut
c'est pas donné, ça.
Non.
Entre combien? Dites un chiffre.
800 et 1200, à peu près.
Bon. Ben, j'aurais dit 500, mais ouais.
Bon, alors c'est beau. Alors, vous nommez un liquidateur et certes, un document vous coûtera entre 300 et 500 $. Voilà.
Ça,
alors,
c'est
ça, c'est
un
pour un testament normal.
Ouais,
que vous allez chez le notaire.
Notarié.
Oui, oui, oui.
Je dois être assez anormal, merci, parce que j'ai payé plus cher que ça.
Ah, mais vous avez des richesses, probablement.
Ah bon?
Ah, oh, c'est ma fortune. OK, je comprends.
Cas,
okay.
Alors, il y a aussi un testament écrit à la main qui s'appelle holographe ou un testament devant témoin. Le testament n'aura pas besoin d'être vérifié par le tribunal ou par un notaire. C'est le testament holographe.
Mm-hmm.
Alors, par conséquent, vos héritiers économiseront plus de 1000 $ de frais et éviteront de longs mois de procédure si vous faites ça à la main, parce que vous allez être obligé de le faire valider.
Oui, oui, oui.
Alors, donc, si vous ne voulez pas donner de troubles à vos héritiers, mais à ce moment-là, vous faites un testament entre 300 et 500 $. Bon, peut-être
oui,
qu'il y a eu une augmentation, mais là, c'est nouveau, ça, cet article-là. Là, elle devrait être à jour. Maintenant, alors, un liquidateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un liquidateur, c'est... D'abord, qui peut agir comme liquidateur? On n'est pas obligé d'en choisir un. Hein. Ce sont alors les héritiers là, qui vont s'occuper du reste. Ils vont se partager les responsabilités.
Donc, c'est ça, ils se réunissent puis ils choisissent c'est une personne, ça. Probablement?
Comme c'était dans le cas de ma mère, comme elle n'avait pas de fortune, alors c'était facile. Moi, je prends ses robes, moi, je prends ceci, moi, je prends ceci.
Ah, dans ce sens-là.
On était à tour de rôle comme ça. Alors, numéro un, allez, qu'est-ce que tu prends? Alors, il n'y avait pas de chicane dans la cabane, c'est merveilleux. Alors, maintenant... Qui peut agir comme liquidateur? Toute personne majeure qui est en mesure d'agir comme liquidateur de la succession, pourvu bien sûr qu'elle soit pleinement capable d'exercer ses droits civils. La plupart du temps, le choix se porte sur un proche, comme le conjoint. On se posait la question oui, si mon mari meurt, etc.
Ou un enfant.
Le fils ou la fille, ou parfois le frère et la sœur, ce qui est mon cas, moi, personnellement. Mm-hmm. Maintenant, on a le droit de un ou plusieurs, on a le droit de nommer plusieurs liquidateurs. Dans le testament, parce qu'il y en a un qui peut mourir avant.
Oui.
Alors donc,
oui, puis le testament, on le fait à un certain moment donné dans notre vie.
Oui, c'est ça. Donc, là, il faut prévoir que la personne va être encore en vie quand on va mourir. Alors, donc, toutefois, demandez-vous d'abord s'ils s'entendent suffisamment bien pour gérer la liquidation ensemble. Alors, on suggère qu'ils soient trois.
Pour un chiffre impair?
Oui, un chiffre impair. C'est beau. Si vous c'est ça, ils disent oui, ils seront mieux à même de régler leurs désaccords. S'il y en a un qui est à l'autre, s'il y en a un troisième à part, ben, ça va être plus facile. Mm-hmm. Alors, les qualités nécessaires, ben, ça prend l'intégrité, bien sûr, hein, une personne de confiance, honnête. Alors, le sens de la diplomatie aussi, parce qu'il peut y avoir certains biens qui causent des problèmes. Moi, je voulais ça, etc. Ça prend quelqu'un pour calmer. La minutie, le liquidateur devra remplir de nombreux formulaires et documenter précisément ses activités pour en rendre compte. Mm-hmm. Ensuite, la disponibilité, parce que la personne que vous choisirez doit pouvoir trouver le temps nécessaire à la liquidation de votre succession. La proximité aussi. Effectuer des recherches en votre nom sera difficile d'un point de vue logistique pour un liquidateur qui habite dans une autre province ou à l'étranger, donc le plus près possible de chez vous. Maintenant, c'est quoi les responsabilités du liquidateur? Ben, obtenir la preuve de décès auprès du directeur de l'État civil.
Oui.
Ensuite, mettre la main sur le dernier testament du défunt en cherchant dans ses affaires. Ensuite, faire vérifier le testament le plus récent. Et puis ensuite, le liquidateur qui a été désigné par le testament pour la succession qui accepte son rôle doit veiller à ce qu'un avis de désignation du liquidateur soit publié au registre des droits personnels et réels mobiliers. Ça s'appelle le RDPRM. Maintenant, j'arrête ici pour dire ceci. Présentement, on est à une expiration de quitter la Terre. Hein? On inspire, on expire, puis à un moment donné, on n'expire plus.
Okay.
Ou on n'expire plus, c'est fini. Mm-hmm. Alors, ça peut arriver n'importe quand. On ne sait pas. Donc, comme ça peut arriver n'importe quand, il vaut mieux prévenir qu'avoir un paquet de troubles. Alors, il faut faire le bilan patrimonial. Par exemple, si vous étiez victime d'un accident demain, votre liquidateur serait-il capable de se retrouver dans vos affaires? Hein? Alors, on fait une liste, un document qui contient vos informations professionnelles, personnelles, ainsi qu'une liste exhaustive de vos avoirs. Hein? Les comptes bancaires, placements, assurances, immeubles... Et les dettes, oui, vous avez une question.
Quelque chose d'important à dire là-dessus, peut-être vous allez l'aborder, hein, mais tout ce qui est mot de passe dans nos plateformes, réseaux sociaux, accès bancaire,
justement,
etc.
J'y pensais à l'instant, nos esprits se rencontrent.
Ah, aujourd'hui, alors, c'est communion totale.
Planifiez votre succession numérique. Qu'adviendra-t-il de vos photos stockées en ligne et de vos profils sur les médias sociaux à la fin de vos jours? Seuls quelques sites comme Facebook ou Google vous permettent de décider ce que deviendront vos données après votre décès. Alors voilà, en plus de planification patrimoniale traditionnelle, il est donc recommandé de prévoir un testament numérique.
Ah oui?
Ah bon, ben, si vous voulez, là. Mais vous êtes pas
obligé. Non, mais bon, c'est parce que va. Je vis une situation...
Oui, alors voyez-vous, ça existe. Maintenant, ça existe, incroyable. Là. On est dans le... Bon, alors voilà. Alors, donc, moi, j'ai dit ça ici, puis ensuite, le liquidateur qui a été désigné par le testament, qui accepte son rôle, donc, il faut identifier toutes les personnes qui peuvent hériter pour les informer de l'ouverture de la succession, et puis fermer les comptes bancaires. Alors, vous avez une bonne idée de ce que le liquidateur devrait, à quoi s'attendre, hein, sans, alors, puis... Voilà. Alors moi, je peux terminer là-dessus en disant oui. Testament, liquidateur, ça va simplifier toutes les choses. Oui. Et puis, faites un inventaire de ce que vous avez avec les numéros de compte et puis tenez ça pas loin là, avec le testament.
C'est et bon? Surtout, dites-le au liquidateur ou à la liquidatrice
oui, bien sûr.
Que ça existe.
Ça vous va?
De toute façon, on devrait prendre des photos aussi de beaucoup de choses qu'on a, non seulement pour la succession, mais en plus pour les assurances.
Pour les assurances.
C'est oui. bien recommandé.
Excellent.
Là-dessus, je vous envoie vers vos terres
chaudes.
D'hiver.
Oui.
D'accord. Et on se reparle au mois d'avril. Alors, bon voyage.
Oui, ben vous, bon
arrivederci.
Hiver. Arrivederci. En italien, c'est pas mal. OK, bye.
Ciao.
Jean Leloup, qui chantait « Les moments parfaits ».
Merci. Bonjour, Marcel Dugas.
Bonjour.
Alors, la semaine dernière, on était dans le pont-tunnel, mais maintenant, on va s'élever un peu, je dirais, et on va parler du nom, donc de l'homme derrière le nom du pont Louis-Hippolyte Lafontaine. Alors, on vous écoute, Marcel.
Oui, bien, c'est la suite logique de ma chronique de la semaine dernière. Je
ne peux
pas parler du pont-tunnel sans parler de Louis-Hippolyte Lafontaine, surtout que c'est un des personnages politiques les plus importants du Canada français et du Canada dans son ensemble au 19e siècle. C'est pas pour rien qu'on le retrouve un peu partout dans notre toponymie, notre odonymie. Le pont-tunnel, évidemment, il y a des rues, il y a des écoles, sans oublier le parc Lafontaine à Montréal qui lui rend hommage également. Louis-Hippolyte Lafontaine, fils de Marie-Joseph Fontaine et d'Antoine Ménard dit Lafontaine, né en 1807 à Boucherville, c'est un modeste village à l'époque. Son père était menuisier. On parle donc pas ici d'un homme né dans les hautes sphères de la société, mais on a quand même pu envoyer le jeune Louis-Hippolyte, qui va délaisser le Ménard au profit du Lafontaine, au Collège de Montréal. Il entre au baron en 1828 et va faire un très bon mariage 3 ans plus tard, épousant Adèle Berthelot, dont le père est un riche avocat et homme politique qui avait ses entrées un peu partout. Lafontaine est happé par la politique à un très jeune âge, il n'avait même pas 25 ans lorsqu'il est élu député à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada pour la première fois en 1830. À ce moment-là, on parlait du Bas-Canada pour désigner le futur Québec et du Haut-Canada lorsqu'il était question de ce qui deviendra l'Ontario. Entre 1830 et 1837, La Fontaine est dans le camp des patriotes. Il est de tous les combats aux côtés de Louis-Joseph Papineau. Il tend même vers l'anticléricalisme. Mais dès le moment où surviennent les soulèvements de 1837-1838, il délaisse le radicalisme complètement et devient l'homme de la médiation. Il est convaincu que c'est la structure du gouvernement de la colonie qui cause les problèmes et que l'obtention du gouvernement responsable solutionnerait pratiquement tous les malaises sociaux au Bas-Canada. Et parlons-en de cette notion de gouvernement responsable, c'est vraiment au centre de l'action politique de Louis-Polyte Lafontaine. Dans le premier demi-siècle de parlementarisme chez nous, l'Assemblée des élus du peuple avait assez peu de pouvoir. Le gouverneur, nommé par Londres, se choisissait un conseil des ministres à son goût, et cet exécutif-là n'avait de compte à rendre qu'au gouverneur et ultimement à la couronne britannique. Donc, techniquement, on profitait du parlementarisme britannique. Il n'y avait jamais eu de parlement de quelque nature que ce soit sous le régime français, la France étant une monarchie absolue. Mais c'était du parlementarisme de façade et le pouvoir se trouvait entre les mains d'un groupe de non-élus. Cette structure gouvernementale-là a causé de multiples affrontements dont les troubles de 37-38 ne sont que la culmination. Mais lorsqu'on est dans un régime de responsabilité ministérielle, le chef du parti qui obtient le plus de sièges à l'Assemblée des élus du peuple forme le gouvernement, les ministres sont choisis parmi les députés et le gouvernement doit conserver la confiance de la Chambre pour rester en place. C'est, grosso modo, le système dans lequel on vit encore aujourd'hui. Après les soulèvements, les autorités britanniques vont charger un politicien, un libéral selon les standards de l'époque, John George Lambton, alias Lord Durham, de produire un rapport. Il va effectivement suggérer d'accorder le gouvernement responsable, mais il y a une attrape. Il veut aussi qu'on réunisse le Bas et le Haut-Canada en une seule colonie, ce qui va amener à terme l'assimilation des Canadiens français, ce qu'il voit comme étant la seule manière de régler le conflit de race, pour reprendre la terminologie de l'époque, qui sévissait dans les colonies d'Amérique du Nord. Londres va effectivement procéder à l'Union des Canadas, ça faisait près de 20 ans qu'on en parlait, c'est finalement chose faite en 1840, mais pas de responsabilité ministérielle. Et Lafontaine va se montrer favorable à l'Union, ce qui peut paraître étonnant compte tenu de l'objectif qu'on visait. C'était pas une position très populaire au Canada français au départ, il faut le dire, mais il avait une foi énorme en les institutions démocratiques britanniques. Il croyait dur comme fer qu'une alliance entre les francophones et les réformistes anglophones était la seule manière d'obtenir le gouvernement responsable et qu'à partir de là, les Canadiens français détiendraient un contrôle suffisant sur les affaires de l'État qu'on ne pourrait pas imposer des mesures qui mèneraient à l'assimilation. Lafontaine devait donc vendre l'idée de travailler à l'obtention du gouvernement responsable à l'intérieur du Canada uni à la population. Et du temps où il était avocat, on l'a décrit comme un habile plaideur, mais il semblerait qu'au niveau oratoire, c'était plutôt ordinaire. C'était pas un tribun qui soulevait les foules ou quoi que ce soit, mais c'était un homme hautement pragmatique qui savait que le succès en politique, c'est l'assemblage de plusieurs éléments. Faire appel à la raison des électeurs, oui, mais aussi à leurs sentiments. Il a favorisé l'émergence de journaux à Montréal et à Québec qui défendaient ses idées. Et lorsqu'il fallait utiliser le patronage et la violence électorale, il était prêt à le faire aussi. Il faut dire que les élections à ce moment-là, c'était un sport extrême. Le recours aux fiers à bras était fréquent. Et Lafontaine, l'ex-anticlérical, va aussi se rapprocher de l'Église catholique. En fait, il va trouver un partenaire avec qui transiger. Il a fait avancer certains projets de loi qui faisaient l'affaire du clergé, et en échange, l'Église a accordé son support à l'idée de gouvernement responsable. Les réformistes pro-responsabilité ministérielle de Lafontaine et de son collègue torontois Robert Baldwin obtiennent une majorité à l'élection de 1848 et le nouveau gouverneur, James Bruce, 8e comte d'Elgin, va demander à Lafontaine de former un gouvernement selon le principe du gouvernement responsable. Elgin n'était pas le genre de gouverneur cérémonial comme ceux qu'on a aujourd'hui, mais il n'était pas non plus l'autorité suprême à la colonie comme l'étaient les gouverneurs qui l'ont précédé. Il était quelque part entre les deux. Et lorsque le premier ministre lui présente un projet de loi pour indemniser les victimes de la répression pendant et après les soulèvements de 1837-38 au Bas-Canada, Elgin donne la sanction royale, donc le projet prend force de loi. Les conservateurs au Parlement et la minorité anglophone au Québec, tout particulièrement les riches hommes d'affaires de Montréal, étaient en état d'apoplexie. De un, on allait verser de l'argent, disait-on, aux rebelles qui s'étaient soulevés contre sa glorieuse majesté la reine. Et puis encore, un gouverneur nommé par Londres, qui recevait ses ordres directement du ministre des colonies de la Grande-Bretagne, se rangeait du côté des Canadiens français contre l'avis des loyaux sujets britanniques. C'était un outrage épouvantable. Mais pour La Fontaine, c'était une grande victoire par ailleurs. Et ça démontrait que le gouvernement responsable fonctionnait. L'indemnisation des victimes de la répression, c'est un projet sur lequel il travaillait depuis des années, et il croyait que ça pourrait tirer un trait sur l'épisode douloureux de 1837-38 et favoriser l'harmonie entre les groupes linguistiques. Le moins qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas été un succès immédiat. En avril 1849, lorsque le gouverneur sanctionne la loi, il y a des émeutiers anglophones qui vont carrément incendier le Parlement qui se trouvait à Montréal à ce moment-là. Et il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat contre Louis-Hippolyte Lafontaine. Sa résidence est saccagée par une foule en colère. Il y a un différent groupe d'émeutiers qui va venir assiéger sa maison quelques mois plus tard. Ça tourne en bataille à coups de fusil. Il va y avoir un mort et des blessés à ce moment-là. Beaucoup d'agitation dans la colonie, mais le gouvernement va tenir le coup. La Fontaine occupe le poste de premier ministre pendant 3 ans et demi. Il démissionne et quitte la vie politique en 1851. Et il était alors établi que non seulement on pouvait avoir un premier ministre canadien-français, mais La Fontaine avait ouvert toutes grandes les portes de la fonction publique aux francophones. Jusque-là, c'était très difficile pour des Canadiens français d'obtenir des emplois gouvernementaux. On avait aussi régularisé l'emploi du français dans l'appareil étatique. Bref, il semblait bien que l'union des deux Canada n'atteindrait pas son objectif d'assimilation. Il décède en février 1864, et c'est pendant les commémorations du 100e anniversaire de sa mort que le premier ministre Jean Lesage a annoncé que le pont-tunnel reliant Boucherville à Montréal rappellerait la mémoire de ce natif de Boucherville qui a vécu la majeure partie de sa vie dans la métropole. Et j'ai consacré 2 chroniques complètes au pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Francine, j'ai même pas eu le temps de vous parler de la radio du pont-tunnel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Au milieu des années 1980, oui. Comme il n'y avait pas de signal radio qui entrait sous le fleuve, on avait créé une station qui ne diffusait que dans le pont-tunnel. Et le souvenir que j'en garde, je ne sais pas pour vous, là, j'avais été très déçu la première fois que j'étais passé. On n'entendait pas grand-chose dans mon souvenir.
Non, effectivement, vous avez tout à fait raison. Moi, j'étais sur la rive sud à ce moment-là, puis il m'arrivait de venir à Montréal et de passer par le pont-tunnel. Et c'était, disons, amateur.
Mais c'était une station de musique, de parlage, de quoi?
C'était parlage surtout, comme tu dis.
Oui, c'était des courts messages, ouais. Ça parlait de circulation. Oui. Et d'ailleurs, une publicité au tout début, au moment de l'ouverture de la station, 15 secondes, $8.50, quand même un bon marché.
Il faut dire qu'en marketing, on appelait ça des clients captifs. Hein? Je veux dire, on était dans l'auto, puis on écoutait, on attendait. Alors, merci, Marcel. Si vous me permettez, en terminant, je vous dirais que vous avez parlé du Parlement incendié dans le Vieux-Montréal. Vous savez qu'il y a un tout petit parcours là, dans sa partie ouest qui relate un peu l'histoire de ce Parlement. On parle bien du même, hein, je crois.
Oui, tout à fait, oui, tout près du musée de Pointe-à-Calière.
Oui, exactement, oui. Alors merci Marcel et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Francine.
Oui, Yvan.
On a dit tantôt avec Serge qu'il nous quittait pour 5 mois. Alors, depuis au moins une semaine, on travaille tous les deux sur comment utiliser ce temps-là.
Oui, on ne remplace pas Serge parce qu'il est
non.
Irremplaçable.
Non, mais on s'est dit de quelle façon on pourrait utiliser ce temps-là pour que notre émission soit plus proche des gens qu'elle vise. Alors, on propose quelque chose. Ça commence la semaine prochaine. Le titre de travail pour l'instant, c'est « Au-delà des limites ». C'est une entrevue qu'on pense faire. Parfois, c'est Francine qui va l'animer, parfois c'est moi, parfois ça sera les deux. Et on veut vous présenter des réalisations particulières qui ont été atteintes par des personnes qui vivent avec un handicap, mais sans nécessairement parler de leur handicap. Ce n'est pas une entrevue où on va parler de la cécité, de la moelle épinière, de quoi que ce soit. On va parler de réalisation.
On veut des gens, en fait, qui vont nous montrer comment ils se sont surpassés.
Oui.
Par rapport à certaines activités, projets, etc. Et quand on parle de réalisation, là, faut faire attention, là. C'est pas quelqu'un qui est parti dans son sous-sol avec 2-3 ordinateurs qui est devenu multimillionnaire. Ça peut être des petites réalisations. Ça peut arriver, oui. Mais on cherche des gens qui... Ça peut être des projets très, très simples.
Oui, oui. Alors, on est en train de regarder autour de nous les gens qui pourraient avoir cette qualité-là. Alors, si vous connaissez des gens qui ont réalisé des choses intéressantes, avec qui on pourrait passer 8 à 10 minutes en onde le vendredi, vous nous écrivez à Régie, R-E-G-I-E, à commercial, Vuesetvoix, V-U-E-S-E-T-V-O-I-X.com. On communique avec ces gens-là, puis on organise quelque chose. Alors, ça commence la semaine prochaine, et ça risque de s'appeler « Au-delà des limites » ou quelque chose dans ce genre-là.
Et pas besoin de venir en studio.
Non, ça peut être fait au téléphone, effectivement. Alors, ça commence la semaine prochaine et puis c'est pour 5 mois. Alors, on va rencontrer plein de gens intéressants. Au retour, on va parler de les Îles-de-la-Madeleine, puis de...
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Donc, je vais faire la suite de ce que j'avais entrepris de vous dire. Donc, au retour, au retour, on va parler de technologie. Entre autres des Îles-de-la-Madeleine, qui ne seront pas technologiques, mais quand même, et de ce qui se passe du côté de IGA.
Oui, c'est deux manchettes de la Presse Plus, comme j'ai mentionné tantôt, et on n'en a pas vraiment parlé parce qu'on savait qu'on reprendrait ça dans ce segment, qui normalement est entièrement consacré à la techno, mais on a fait un petit spécial, comme on dit en bon français, pour notre cher co-animateur.
Oui, et je vais parler avec Vanessa Paré, de Moelle Épinière, c'est là que je me suis fait couper. Moelle Épinière et Mobilité Québec. Hey, on va parler des fêtes de Noël.
Ah, Noël!
Alors là, il y a eu l'interruption, on est revenu en onde et voilà, on est reparti.
Alors, je commence avec les problèmes informatiques chez IGA. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé dans des marchés d'alimentation hier ou avant-hier, mais vous avez constaté chez IGA et Sobeys et peut-être d'autres.
Sobeys, au Québec? Il y a des Sobeys au Québec?
Oui.
Je pensais que c'était dans les Maritimes puis en Ontario.
Non, il y en a ici aussi.
D'accord.
C'est qu'il y a des problèmes informatiques. Ces problèmes informatiques-là sont survenus vendredi dernier, donc ça fait une semaine, chez Empire. Empire, ça gère les supermarchés IGA et présentement, ça cause des maux de tête à certains fournisseurs. Nathalie Morissette, dans la Presse Plus, dans la section Affaires, en parle largement. Elle a consacré tout un écran à ça. Alors, les produits s'accumulent dans les entrepôts au lieu d'atterrir dans les congélateurs ou sur les tablettes. Et aussi les fournisseurs, une autre dimension. Je trouvais ça intéressant parce que c'est tout. Quand on regarde des failles comme ça, on dit oh, c'est une faille informatique, ça va passer. C'est pas une banque, là, c'est pas grave, là, c'est pas si grave que ça. Mais non, ça a des conséquences importantes. Alors, on a parlé des tablettes vides, mais aussi les fournisseurs qui peinent à se faire payer.
Oh!
Alors, dans ces circonstances-là, IGA a demandé à certains d'entre eux de livrer directement leurs produits dans les supermarchés s'ils en avaient la capacité, nous rapporte Mme Morissette dans son écran. Mais c'est sûr que pour plusieurs, ce n'est pas possible d'approvisionner les épiceries. Hein. Ce n'est pas la même chose de demander à des fournisseurs de livrer leurs produits à un entrepôt plutôt que de la livrer... de les livrer dans différents points de vente. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont des petits fournisseurs ou encore qui ont des exclusivités, vous savez qu'il y a des fournisseurs exclusifs, on en parle aussi dans l'écran. Alors, les fournisseurs exclusifs qui ne travaillent qu'avec, évidemment, Empire, et là, mais au niveau financier, ça peut avoir des conséquences... extrêmement néfaste. Combien de temps ça va durer, on ne le sait pas. Ce qu'on a su, cependant, et ça, c'est toujours un peu plate. Moi, quand je vois ça, je trouve ça toujours plate, c'est qu'on a su un peu par la bande ce qui est arrivé, puisque toutes données là, qui sont soit volées ou encore maltraitées, entre guillemets, doit faire l'objet d'une dénonciation auprès d'une commission provinciale. Et c'est en fouillant qu'on a su que effectivement les problèmes informatiques qu'il y avait seraient probablement d'origine criminelle. C'est-à-dire que oui, on a essayé d'entrer dans les... On a plus qu'essayé, on a réussi à entrer dans les banques avec... Dans les banques de données, effectivement. On est toujours dans le domaine alimentaire. Ouais. Et à ce moment-là, bien évidemment, ça a pour conséquence qu'on ralentit l'approvisionnement. Évidemment, le service de commande en ligne, voilà, qui était un beau succès jusqu'à maintenant, est fortement touché. Alors, on espère qu'on va trouver rapidement, on dit que... On espère que Sobeys, qui travaille présentement à une résolution de crise pour la semaine prochaine, bien que ça puisse s'avérer, parce que sinon, ça va devenir extrêmement problématique. Alors, c'était une des manchettes de la presse, plus l'autre, vers une taxe touristique aux îles. Alors, rapidement, les îles de la Madeleine aimeraient instaurer une redevance de 30 $ pour les non-résidents pour financer leurs infrastructures d'accueil. Alors, on sait que l'été, hein, la population, là, vous allez pouvoir me corriger, là, je ne sais pas si c'est à double, à triple ou à quadruple, mais disons qu'il y a beaucoup de monde aux îles par rapport à la population locale. Évidemment, pour les services, c'est extrêmement coûteux et c'est ce qu'on souhaite, mais c'est un souhait parce que ce n'est pas évident. Il y a une loi qui gèrent les municipalités et leur pouvoir de taxation. En Gaspésie, on a pensé l'année dernière à faire quelque chose, pas un droit d'entrée parce que ça ne serait pas gérable en Gaspésie, il n'y a pas vraiment de frontières, alors que les îles de la Madeleine, oui, hein, on peut pas aller là avec son auto sans passer soit par, sans prendre on peut y aller en avion ou encore, peut-être en kayak, oui. Mmh. Et voilà, alors on verra comment ça va se concrétiser, mais présentement, c'est en discussion. Alors, Yvan, je vous regarde, vous êtes prêt, vous attendez avec impatience que je vous cède la parole. Allez-y, mon cher Yvan.
Ben, je trouve que c'est une excellente idée. Ben, d'abord, les îles ont subi les affres de l'ouragan Fiona dernièrement. Ils ont à gérer aussi tout ce qui est érosion. Et donc, on a besoin d'argent là pour sauvegarder les îles. Tout est important là-bas, la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Alors, de penser à une idée de ce genre-là, d'impliquer les non-résidents, je pense que c'est intéressant. L'idée de base, c'est que quand on prend le traversier ou quand on prend l'avion et qu'on n'a pas une adresse de résidence aux îles, chaque personne de 13 ans et plus aurait à payer 30 $.
30 $. Bien, c'est l'idée de base, mais là, il faut négocier. Hein?
Oui, oui.
Sur le traversier, c'est peut-être assez facile. Moi, je ne sais pas, j'ai un doute par rapport à la faisabilité au-delà de la loi. Là. Si je me dis, peut-être que sur le traversier, je ne sais pas, mais est-ce qu'Air Canada va vouloir s'embarquer, par exemple?
Et pourquoi le ferait-il? Hein?
Oui, bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de coûts liés à ça.
Oui. Ceci étant dit, du point de vue du touriste, du point de vue de moi-même, qui va aux îles à toutes les deux ans. L'idée, c'était 30 $ parce qu'un séjour aux îles, c'est en moyenne 10 jours. Donc, c'est bêtement de dire on paye 3 $ par jour. Bon, moi, quand je vais aux îles, étant donné le temps que ça me prend pour me rendre, on reste là plus longtemps. Mais je trouve que d'une contribution, pour moi, là, j'aimerais contribuer, que ça soit de cette façon-là ou autrement. Mais trouvez-moi le moyen, puis moi, je suis prêt à contribuer pour que les îles aient une pérennité mieux gérée que ce qu'il y a présentement. Et tout le côté climatique devient extrêmement important à cet endroit-là. Mmh. Donc, oui, moi, c'est bizarre à dire, je suis d'accord pour payer plus, mais oui, je suis d'accord pour faire ma part.
En tout cas, moi, je pense qu'on pourrait peut-être s'inspirer de ce qui se passe dans les grandes villes. J'aime aussi les îles. Je me dis peut-être que cette taxe-là pourrait être finalement collectée par ceux qui hébergent.
Oui, peut-être.
C'est, ceux qui font, c'est sûr que ça en élimine toujours. Il y en a qui... Mais c'est comme ça qu'on fait, puis c'est peut-être le moyen le plus facile. Si vous me permettez, en terminant, sûrement qu'aux îles, on attend des colis de temps en temps.
Ça arrive.
Alors, oui, beaucoup, ça arrive même. Parce que de plus en plus, on commande, évidemment, de façon virtuelle. Et simplement, une nouvelle, là, Gmail, qui bientôt va vous permettre de suivre vos colis. Alors, vous dites, mais à quoi ça sert? Tout le monde a des applications. Bien, c'est justement Gmail, c'est que vous aurez pas, vous serez pas obligé d'aller voir si c'est Post Canada, si c'est Amazon, si c'est, ça va être dans votre Gmail.
Mm-hmm.
Alors, tout sera là.
Oui,
on n'arrête pas le progrès et on n'arrête pas la concentration non plus.
Ça pourrait empêcher certaines fraudes. Hein? Moi, je reçois souvent des messages que j'ai un colis quelque part, puis j'ai besoin d'activer quelque chose pour le recevoir. Là. Fait qu'avec Gmail, on serait peut-être un peu protégé.
Puis, rien à activer. C'est sûr que vous allez devoir accepter parce que ça va s'inscrire d'office, mais vous allez devoir accepter si vous souhaitez avoir ce service ou pas.
God damn, so hot. Yeah, man, c'est un up. Choc ta bière, c'est un up. Puff sur le tank, t'es mon pote. Girl, give me some more. Donne-moi ça plus. I say girl, give me some more. Donne-moi ça plus. I say girl, fume le tank. Oh, yeah, girl, do it again.
Plus de mois en plein. Si je te check un peu de bread, tu réduis racheter du pain. Puis passe et puis confiture sur mes toasts, rajoute pain. La fioriture sur le track si la note est fausse. Une vingtaine de fourmis s'abrochent dans le fond du bus. On a bien du fun, mais on en veut plus. Fidèle au boss, on connaît le boss. Et toutes les astuces, on fournit le rap en ville comme un marché aux puces. Mais là, on attend rien que le cancan kickin' pour faire une grosse game de kick la cacane. Tu demandes squat, squat et gang, gang. On voit le sein, on a Michel, toutes les oreilles saines. Qu'est-ce passe, qu'est-ce clair? Hi-hat, grosse boss, cake boss. Faut que tu te laisses faire, on t'offre tout ce que t'espoir. On donne le top du top, mais c'est à toi de nous en donner next time.
Donne-moi en plus.
C'était Fouki avec Papy qui chantait « Donne-moi en plus ».
Oui, « Donne-moi en plus ». Donc, je me tourne vers Vanessa Paré. Là, il y a quelqu'un qui m'a mis dans la tête un autre nom, là, puis j'ai failli le dire. Donc, Vanessa Paré, organisatrice communautaire, chef d'équipe intégration sociale à Moelle-Épinière et Mobilité Québec. On est le 11 novembre et on va parler des activités de Noël.
Oui, bonjour Yvan, ça va bien?
Ça va bien, merci Vanessa.
Vanessa Paradis.
j'ai failli le dire. Hein?
Il se bat depuis ce matin avec ce nom de famille-là.
Vanessa, c'est ma faute.
C'est Francine
C'est ça, j'ai fait une farce plate avant le début de l'émission. Je m'en excuse, bonjour.
Bonjour. Ça va, c'est pas la première fois qu'on me l'a fait, la farce. Donc,
mais dites-vous que Vanessa Paradis a la même chose. Il y a des gens qui l'appellent oui. Vanessa Paré.
Vanessa Paré de oui. Moelle-Épinière. Et oui.
Puis elle, tout
elle avait confié ça. Ben mais oui. Ma notoriété me précède.
Sûrement.
Donc, retour aux choses sérieuses. Oui, effectivement, ça paraît pas hein, ce 11 novembre, là, parce que c'est quand même assez doux, mais Noël s'en vient. En tout cas, dans les magasins, là, c'est déjà le stock est déjà sorti.
Les et nous, on chansons est sont déjà sorties.
Ah, Mariah Carey, ça roule la fameuse chanson, là, ça, ça tourne pour le meilleur et pour le pire, on va dire.
Oui, tout à fait.
Mais en ce mois un peu sombre, c'est ça, Noël, c'est aussi synonyme de réjouissance. Et nous, on se réjouit parce qu'on est en plein dans l'organisation de nos événements de Noël à Moelle-Épinière. Donc, je peux peut-être en parler un petit peu
plus.
Nous, on est un organisme provincial, on essaie d'organiser des activités un peu partout où il y a des concentrations, où nos membres se concentrent, évidemment, dans les villes où ça va rassembler le plus de gens possible. Donc, on va commencer le 7 décembre à Québec. Il y a un dîner de Noël qui va se tenir dans un restaurant, le pub Blackstone. Mm-hmm. Donc, c'est pour convier nos membres de la région de Québec, Chaudière-Appalaches, des environs. Ensuite, le 9 décembre à Montréal, au Centre récréatif Édouard-Rivet de Montréal-Est, se tiendra un cocktail du Père Noël. Et qu'on va avoir un invité diplomatique nous arrive du pôle Nord. Donc, on va faire un événement.
Ah, c'est ça, un invité diplomatique?
Oui, c'est ça. Il a fallu négocier pour stationner le traîneau de fonction, les gardes du corps et tout, mais blague à part. On fait quelque chose de plus simple cette année à Montréal, étant donné qu'on a eu un grand événement en septembre. Donc, on y va vraiment dans une formule, là, comme on dit, on retourne à nos racines communautaires. Là, c'est vraiment un événement cocktail réseautage avec un Père Noël et une Mère Noël en fauteuil roulant, bien sûr. Mmh. Et le 15 décembre, à Sherbrooke, il y aura un souper de Noël qui va se tenir au restaurant Au Vieux du Lutte. Donc, c'est ce qui nous attend pour le mois prochain.
D'accord. Je vois sur votre site pour Montréal, on parle d'un événement aussi à la maison Parent Robac.
Il y a eu un petit changement.
D'accord.
Et je remarque, vous me faites remarquer que l'affiche n'est pas la bonne. Il va falloir que je fasse une mise à jour. Merci. Ce ne sera pas la maison Parent Robac. Il y a eu, en fait, on a eu un petit enjeu. On est à la recherche d'une salle et on a prospecté un peu. Donc, notre événement a changé comme d'endroit. Et là, vous me faites réaliser que c'est pas la bonne information qui figure sur le site web. Alors, je vais aller corriger ça de facto.
Ça me fait plaisir de vous aider.
Oups.
Alors, on vous souhaite de bonnes réceptions déjà de Noël. J'ai de la misère à le dire, vraiment, de penser. C'est à cause de la température dehors. S'il pouvait neiger, ça m'aiderait. Donc,
Noël tropical.
Oui, un Noël tropical. Donc, des belles activités qui ont lieu à Québec, à Montréal et à Sherbrooke. Vous pouvez aller voir sur le site pour les détails et pour les réservations sûrement. Alors, Vanessa Anne Paré, je vais rajouter le Anne, comme ça je ne me trompe pas.
On se trompe moins comme
de cette façon-là. On se reparle tout près de Noël.
Avec grand plaisir.
Voilà. Alors, bon cocktail et au plaisir de se reparler.
Merci, au plaisir. Une très bonne journée à vous.
Francine,
oui,
notre salle des nouvelles.
De notre salle des nouvelles, puis après ça, je vais me transporter à quoi faire ce week-end ou qu'est-ce qu'on surveille.
Mm-hmm.
Oui, c'est concernant la manchette dont on vient juste de parler, IGA et les problèmes informatiques. Je vous avais dit qu'on soupçonnait. Alors, on vient d'apprendre dans une mise à jour de la presse que la Commission d'accès à l'information du Québec a confirmé avoir reçu une déclaration d'incident de confidentialité par rapport à ce dossier, de même que le commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta.
De l'Alberta?
Oui, et le commissariat à la protection de la vie privée du Canada est en communication avec l'entreprise à ce moment-ci. Voilà!
Est-ce que ça sous-entend que nous, comme consommateurs, si on va faire notre épicerie, ça, il va y avoir des impacts? Il y aura des tablettes toujours qui ne
seront pas bien? Ah oui, c'est ce que je vous dis. Là, hier, moi, c'est ce que j'ai constaté. J'allais faire un petit tour pour voir, là. C'est ce que j'ai constaté. Oui, il manquait des produits parce que c'est sûr, ça doit... Je ne connais pas le rythme, je ne connais pas l'alimentation, mais mm-hmm. j'imagine qu'on mange, hein? On mange au Québec, hein?
Oui, et puis là, le temps des fêtes s'en vient, là, on vient.
Alors, les tablettes doivent se vider rapidement. J'imagine qu'au moins une fois par jour, ils doivent les remplir. Et hier, c'était assez vide, merci.
OK, donc il va peut-être avoir une ruée vers le papier de toilette, c'est ça que vous me dites?
Je ne sais pas, mais s'il y en a encore. Et semble-t-il que ça pourrait toucher certaines pharmacies, là. Aussi.
Ah,
qui sont, ben oui, c'est
est-ce qu'il y a des pharmacies qui sont reliées?
Bien, probablement. À il y a probablement. Alors, c'est ce qu'on dit dans la mise à jour de la presse.
D'accord.
Alors, dans un tout autre ordre d'idées, qu'est-ce qu'on surveille en fin de semaine? Alors, je vais commencer par un petit film québécois. Ben, québécois. En fait, celui qui a le rôle-titre est un Français, c'est Denis Ménochet. Ça est fait à partir d'un roman de Romain Gary. C'est le dernier film d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui a incidemment ouvert Cinémania, qui se termine le 13 novembre. Allez voir Cinémania, la programmation. Vous ne faites que googler et vous allez avoir tout ce qui va se dérouler pendant les deux prochains jours. Ce film, c'est Chien blanc. Alors, il commence à être à l'affiche. Et si vous avez lu les critiques, elles sont de très bonnes. De très, très bonnes critiques.
Essayez d'en trouver des négatives. Là, vous allez travailler fort.
Probablement. Au Centre Phi, une expérience, en tout cas, qui, moi, m'interpelle beaucoup. Ça s'appelle « Dernière minute ». C'est une expérience sensorielle et immersive qui nous montre comment la dernière minute, finalement, elle est souvent étirée. Alors oui, c'est la dernière minute avant d'arriver à la mort, avant de naître, mais aussi la dernière minute d'un point de vue d'une particule, comme une goutte d'eau, comme une vague, etc. Alors c'est assez spécial, c'est une exposition qui est interactive et immersive, comme d'habitude. C'est fait par une artiste visuelle, designer graphique, Claire Barden, et un artiste multidisciplinaire qui est informaticien, Adrien Mondeau, qui sont tous deux des gens de Grenoble. Aussi, si vous allez faire un tour, puisque vous parlez de Noël, donc si vous allez au Centre Phi, vous allez dans le Vieux-Montréal. Alors, sur la place d'Armes, les magnifiques étoiles de Noël
sont déjà
installées. En fait, il est installé pour l'Halloween. Je me suis dit, peut-être qu'ils veulent faire un peu plus d'éclairage.
Ils ont sorti Noël pour l'Halloween.
Oui, oui.
Mon Dieu, les jeunes vont être tout mélangés.
Une activité pour tous qui se déroule dans cet espace Georges-Émile Lapalme. Vous savez, quand on entre à la Place des Arts, c'est l'espace, je dirais, qui nous accueille. Ça s'appelle le micro ouvert autochtone. Ça se déroule les 12 et 13 novembre. C'est un spectacle pour toute la famille. C'est un spectacle qui est gratuit. Et ça nous permet de découvrir de la musique, de la chanson, des mots, mais aussi des saveurs.
Des saveurs.
Donc, je ne sais trop. Est-ce qu'on va goûter? Est-ce qu'on va sentir?
On va déguster
des choses, peut-être? Je ne sais pas. Et je vais terminer avec l'Arsenal à Montréal, qui présente toujours leur spectacle de Pink Floyd, qui s'appelle, en fait, Their Mortal Remains. Donc, c'est les restes mortels, les restes... Mais c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, Ça paraît que c'est très bon, je ne l'ai pas vu. Mais si ça vous tente d'aller faire un petit tour à l'Arsenal avec de la musique de Pink Floyd.
D'accord. Je vais rester un petit peu sur le côté culturel. Je vais vous relancer un peu sur Cinémania parce qu'il y a des activités vraiment intéressantes qui ont lieu aujourd'hui et demain.
Beaucoup aujourd'hui, hein, en fin de journée, oui.
Je parle entre autres de la grande soirée du cours québécois qui a lieu au studio Cabaret de l'espace Saint-Denis. C'est 22 courts-métrages qui vont être présentés, parmi lesquels 14 sont des productions québécoises. Et au terme de cette soirée, le jury remettra le prix du meilleur court-métrage québécois de Télé-Québec. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas manquer. Je ne serai pas dans le coin en fin de semaine, mais si je l'avais été, j'aurais été à la... Bon, L'Auberge espagnole, c'est un de mes films fétiches. Je l'ai regardé plusieurs fois et tout ce qui a découlé de ce film-là aussi.
Mais là, ils viennent en terminer un, justement, qui est dans cette suite-là.
Oui, c'est comme la prochaine génération, genre.
Peut-être, genre. Je ne sais trop. Ça s'appelle Salade grecque.
Salade grecque,
oui.
D'accord.
Alors, c'est la suite attendue de la trilogie de l'Auberge espagnole.
Donc, pour demain, samedi 12 novembre à 16h30, à l'hôtel Sofitel Montréal, Le Carré Doré, c'est animé par Patrick Fabre. C'est une classe de maître de Cédric Clapiche, qui est à Cinémania à titre de coprésident du jury « Visage de la francophonie » à la compétition officielle du festival. L'occasion idéale d'évoquer ses derniers films, dont encore E-N, espace C-O-R-P-S, et non pas E-N-C-O-R-E, encore, sorti cette année en salle au Québec, ainsi que ses récentes incursions dans l'univers de la série. Et je finis avec la journée François Dompierre, le samedi 12 novembre, à la Cinémathèque québécoise. Cette édition rendra hommage aux pionniers de la musique de film au Québec, François Dompierre. On va parler de X-13, qui sera présenté à 11h, La Passion d'Augustine à 13h30, et à 16h aura lieu la discussion publique « Les grands esprits se rencontrent, Dompierre et les acteurs de la relève », qui est une table ronde animée par Monique Giroux. Alors, c'est vraiment des choses intéressantes à faire en fin de semaine. En fin de semaine, il va pleuvoir, semble-t-il, à tout le moins dans la nuit d'aujourd'hui, de vendredi à samedi.
Oui, puis c'est tristounet samedi et dimanche aussi. Ça ne nous empêche pas d'aller prendre une petite marche dehors. Mais comme on disait avant l'émission, il y a aussi du Netflix. Là, il y a autre chose. Il y a plein de belles séries québécoises.
Oui.
Mais The Crown.
Oui,
il y a The Crown qui a commencé. Oui.
Mais vous n'êtes pas obligé de le faire en fin de semaine. Ça, c'est quand même disponible pendant une longue période. Par contre, ce soir, il y a un combat de boxe féminin. Et c'est Marie-Ève Dicker qui se bat contre Natasha Jonas, qui est une Anglaise. Et c'est un combat d'unification des championnats. Alors, Marie-Ève Dicker est championne mondiale IBF et Natasha Jonas est championne WBC et WBO.
Vos prédictions, Yvan?
J'en ai pas parce que je les connais pas bien. Alors, tu sais, je pourrais prendre pour Marie-Ève Dicker parce qu'elle est québécoise,
oh, oui.
Mais c'est un bon argument quand même. 2 minutes. Alors, je n'étais pas supposé dire ça, hein? Excusez-moi. Demain, les Carabins de Montréal, tout le monde est en train de rire présentement, il faut que je garde mon sérieux. Les Carabins de Montréal jouent contre le Rouge et Or. Je vais être à Québec, mais je ne serai pas à ce match-là. C'est à 14h demain. C'est toujours des matchs intéressants et ça se termine toujours dans les derniers instants du match. Donc, manquez pas ça, c'est à la télévision. Les Alouettes de Montréal jouent contre les Argonauts de Montréal, de Toronto à 13h dimanche. Et le gagnant de ce match-là sera du match de la Coupe Grey. Alors, on n'aurait pas pensé que les Alouettes allaient se rendre jusque-là. Mais ce qui va retenir mon attention beaucoup, ça commence dimanche à 8h du matin, notre heure à nous. C'est la finale de l'ATP pour les hommes. Et notre Félix Auger-Aliassime va jouer. Et c'est la 5e tête de série de ce tournoi de 8 joueurs, presque les 8 meilleurs joueurs, il y a des blessés là-dedans. Ça débute dimanche, il va jouer contre Casper Ruud à 8h. Les autres joueurs qui font partie de son groupe, c'est Rafael Nadal, qui n'a jamais battu encore, et Taylor Fritz, qui est un remplaçant quand même de luxe, et Félix Auger-Aliassime ne l'a jamais battu lui non plus.
Alors, on verra. C'est ainsi que ça se termine.
Oui.
Ça fut un grand plaisir, chers auditeurs et auditrices, de vous accompagner ce matin. Alors, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, en particulier, évidemment, Mathieu.
Mathieu Tessier,
qui nous a accompagnés, et mon cher co-animateur, à qui je laisse le mot de la fin.
Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 5e édition.